Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Journal d'un bourgeois de Paris, de 1405 à 1449 est une chronique médiévale anonyme, présentée ici dans une édition critique moderne. Le texte couvre près d'un demi-siècle d'histoire parisienne, sous les règnes de Charles VI et Charles VII, au cœur de la guerre de Cent Ans, rédigé par un témoin urbain vraisemblablement lié au milieu du clergé de Notre-Dame et de l'université, il rassemble des observations sur les événements politiques, militaires, religieux et sur la vie quotidienne dans la capitale. Son intérêt tient à la fois à sa proximité avec les faits et à son regard profondément situé, donc partiel, qui restitue la manière dont un contemporain perçoit les crises de son temps. Ce n'est pas un récit littéraire au sens classique, mais une source historique majeure, utile autant pour l'histoire de Paris que pour celle des mentalités et des tensions sociales du XVe siècle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une chronique urbaine au plus près de la guerre de Cent Ans, le livre n'est pas un journal intime au sens moderne, mais une chronique composée de notations brèves et datées sur les événements jugés dignes d'être tenus. Sa force vient de la continuité de l'observation entre 1405 et 1449, période où Paris traverse les crises politiques, les changements d'alliance, les occupations, les rumeurs et les violences liées à la guerre de Cent Ans. L'intérêt historique est majeur, car le texte ne se contente pas d'énumérer les faits, il montre comment ils sont perçus dans la capitale, au niveau d'un témoin ordinaire mais informé. Cela permet de mesurer l'écart entre les grands événements et leur réception concrète dans une ville exposée aux pénuries, à l'insécurité et aux incertitudes du pouvoir. Le livre éclaire ainsi l'histoire du quotidien autant que l'histoire événementielle. Deuxièmement, un regard subjectif qui révèle les sensibilités politiques parisiennes. L'auteur n'aspire pas à l'objectivité et écrit depuis une position sociale et intellectuelle particulière, probablement proche du clergé et de l'université. Cette situation explique le caractère très personnel du témoignage, il sélectionne les faits, insiste sur certains désordres, en minimise d'autres et laisse apparaître des préférences politiques qu'il faut lire avec prudence. Cette subjectivité n'est pas un défaut secondaire, elle fait partie de la valeur du texte, car elle révèle les sensibilités d'un milieu parisien confronté aux rivalités entre Armagnac, Bourguignon et Anglais. On voit ainsi comment se construit une opinion en temps de crise, par l'observation directe, les récits entendus et les interprétations locales. Le livre est donc précieux non seulement pour ce qu'il raconte, mais pour la manière dont il raconte, en donnant accès à une vision située du pouvoir, des conflits et des fidélités politiques. Troisièmement, la vie quotidienne à Paris comme objet historique à part entière. L'une des grandes richesses de l'ouvrage est de faire coexister les grands événements et les détails concrets de la vie urbaine. Le texte mentionne des faits liés aux prix, aux pénuries, aux mouvements d'opinion, aux violences de rue, à la météo, aux rumeurs ou aux inquiétudes collectives. Ces notations, en apparence modestes, permettent de reconstituer une ville vécue de l'intérieur, avec ses fragilités matérielles et ses réactions immédiates aux crises. Loin de réduire l'histoire à la seule action des rois et des armées, le journal montre comment la guerre et les troubles politiques pèsent sur l'alimentation, la sécurité, les déplacements et la perception du temps présent. Pour l'historien, cette dimension est essentielle, car elle donne un accès rare aux expériences ordinaires d'une population urbaine au XVe siècle. Le texte permet donc d'étudier l'histoire sociale et culturelle autant que l'histoire politique. Quatrièmement, une source indispensable mais exigeante pour comprendre le XVe siècle, le journal d'un bourgeois de Paris s'adresse surtout à un lectorat déjà familiarisé avec le contexte médiéval, car sa lecture suppose de connaître les acteurs, les factions et les grandes étapes de la guerre de Cent Ans. Le texte est fragmentaire, souvent elliptique, et il ne fournit pas toujours les explications nécessaires à une compréhension immédiate. C'est pourquoi l'appareil critique de l'édition moderne est décisif note. Introduction et commentaires rendent le document exploitable sans en affaiblir l'authenticité. Cette exigence explique que l'ouvrage soit souvent qualifié de source indispensable, mais aussi de lecture difficile pour un public non préparé. En pratique, il convient autant aux chercheurs qu'aux lecteurs sérieux qui veulent aller au-delà des synthèses générales. Sa valeur ne réside pas dans une narration fluide, mais dans la densité documentaire et la précision d'un témoignage contemporain sur une période de désorganisation politique et sociale. En dernier lieu, l'importance de l'édition critique de Colette Beaune. Cette édition se distingue par le travail de présentation et de commentaires qui accompagne les textes originaux. La modernisation de la graphie, sans traduction, permet de conserver la saveur linguistique du document tout en le rendant plus lisible. Les notes nombreuses et l'introduction de Colette Beaune replacent la chronique dans son contexte et facilitent l'identification des événements, des lieux et des personnages. Ce cadre éditorial est essentiel, car il transforme une source médiévale difficile d'accès en outil de travail fiable pour l'histoire. L'ouvrage appartient ainsi à la tradition des lettres gothiques qui vise à donner un accès direct au texte tout en garantissant sa compréhension. Par rapport à d'autres chroniques médiévales, il se distingue par l'équilibre entre fidélité au texte et médiation savante. Le lecteur ne reçoit pas seulement une chronique, mais un document historiquement stabilisé et intelligemment contextualisé. En conclusion, ce livre doit être lu en priorité par les historiens, les étudiants en médiévistique, les chercheurs en histoire urbaine et, plus largement, par les lecteurs qui s'intéressent à la guerre de Cent Ans, à Paris au XVe siècle et aux formes de perception du politique dans une société de crise. Son principal apport est de faire entendre une voix contemporaine, non filtrée par une synthèse moderne, tout en offrant les outils critiques nécessaires pour l'interpréter. Il permet de comprendre à la fois les événements et leur réception, ce qui le rend plus précieux qu'un simple récit historique rétrospectif. Par rapport à d'autres chroniques médiévales, il se distingue par l'intensité de son ancrage parisien, la richesse de ses notations sur la vie quotidienne et la netteté de son point de vue subjectif. C'est donc un livre exigeant, mais particulièrement fécond pour qui veut saisir concrètement ce que signifiait vivre Ypres et Paris dans une période de guerre, de tensions politiques et d'incertitudes collectives. Il ne cherche pas à séduire par la narration, mais à documenter avec force un moment décisif de l'histoire française. Si vous souhaitez soutenir Collectif, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.